agir. Jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PMO au réseau Cogeco.
L'incapacité des gouvernements canadiens successifs à respecter les droits des Autochtones au Canada nous fait grandement honte. Et pour beaucoup trop d'Autochtones, ce non-respect des droits persiste encore aujourd'hui.
Hélène Buzetti, qui a tout entendu, écouté d'un bout à l'autre le discours de Justin Trudeau. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Et vous en retenez quoi?
Bien, c'est assez étonnant. Je venais justement de parler avec des spécialistes de la question là, qui ont aussi écouté le discours. C'est étonnant dans le choix du sujet retenu par M. Trudeau. Dans sa version française, le discours fait une douzaine de pages. Il a duré 30 minutes au total. Sur ces 12 pages-là, là, on compte 8 pages consacrées à la question des Autochtones. Mm-hmm. M. Trudeau, on l'entendait tout à l'heure en entrée d'émission, parler de la honte que nous cause encore la situation actuelle des Autochtones. Il est rentré vraiment beaucoup dans le détail. Il est allé jusqu'à expliquer son dernier remaniement ministériel, le fait qu'il a séparé les fonctions là, de ministre des Affaires autochtones entre deux ministres, l'objectif à plus long terme de se débarrasser du ministère qui est colonial et paternaliste, selon ses mots. Donc, il est rentré vraiment beaucoup dans le détail de la politique canadienne et on peut se demander quel était l'intérêt pour la communauté planétaire là, d'écouter, d'entendre ça. On peut se poser la question, il n'y avait rien dans ce discours-là sur des questions internationales. Pensons à la Corée du Nord, on en parle un petit peu ces temps-ci, mettons, l'importance encore du multilatéralisme, les missions de paix.
Il n'a pas annoncé où les troupes canadiennes seraient déployées, dans quelle mission de paix elles seraient déployées, hein, parce qu'on attend la réponse à cette question-là.
On attend la réponse depuis, franchement, un an et demi, dans le fond. Le gouvernement s'est engagé à se réinvestir dans ces missions de paix. On attend toujours de savoir quelle serait la destination. Encore plus tôt cette semaine, la question a été posée à M. Trudeau, puis il dit « Écoutez, on réfléchit toujours, on ne peut pas prendre de décision à la légère quand il s'agit de mettre nos soldats en danger. » Bon, je veux bien, mais combien de temps faut-il encore pour penser à tout ça?
Moi, je pensais qu'il allait en profiter aujourd'hui pour l'annoncer, ça.
On le pensait, oui.
Hein, tu le pensais aussi, hein? Parce que moi, on m'avait dit, il va parler des Autochtones beaucoup, ça va être vraiment la trame. Il va parler de changement climatique, puis il y a un troisième thème là dont on veut pas vous dire ce qui en est. Ah, je me suis dit bon, ben ça va être ça la nouvelle. Il s'est gardé une nouvelle et ça va être le déploiement des forces de paix du Canada, des casques bleus. Et ben ça a pas été ça. D'ailleurs, c'est quoi la nouvelle là? Parce que ce qu'on savait, c'est que les Autochtones allaient être le cœur de son discours, mais y a-t-il une surprise là-dedans?
Ben moi j'en ai pas vu là, alors peut-être que j'ai raté quelque chose, mais j'ai lu le discours, je l'ai entendu, j'en ai discuté avec des personnes qui l'ont eux aussi entendu, et personne n'a entendu de nouvelles là dans ce discours-là. Bon, ceci dit, il y a rarement de la nouvelle, on s'entend, on s'adresse au concert des nations. D'habitude, on s'attend davantage à une espèce de déclaration de où on se situe sur les enjeux planétaires de l'heure, donner un peu le ton de qu'est-ce que le Canada fait dans le monde? Quel est le rôle du Canada dans les interactions entre les États, entre les nations? Et c'est ça qu'on n'a pas du tout entendu. Moi, la seule compréhension que je peux avoir là, de cet intérêt là, ou de cet accent mis sur la question des affaires autochtones, c'est que souvent, bon, le Canada étant un pays riche, un pays qui par la force des choses, fait un peu la leçon au reste de la planète, se fait souvent dire, écoute, t'as rien pour faire la leçon, regarde la situation déplorable de tes peuples autochtones. Donc, c'est peut-être une façon de faire son mea culpa pour ensuite paraître encore plus grandi dans un contexte, il faut pas l'oublier, où le Canada fait campagne pour obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, peut-être c'est une façon de dire, nous reconnaissons nos failles, mais encore là, je ne suis pas certaine de l'intérêt que ça peut susciter là, chez ceux qui l'ont entendu aujourd'hui.
Ben moi, j'ai pensé que c'était la même chose. J'ai pensé que ça s'inscrivait dans une... Parce qu'on s'entend, Hélène, là, la question autochtone, c'est une question qui est beaucoup plus importante, je dirais, dans le débat public qu'elle ne l'était auparavant, et pas simplement ici au Canada. C'est une question qui prend de l'importance aussi ailleurs. Et oui, c'est vrai que c'est un peu l'œil au beurre noir du Canada, là,
Absolument.
Hein, on s'entend. Et donc, moi, je pense que, d'abord, sur le fond des choses, moi, je doute pas de la sincérité de Justin Trudeau. Je pense qu'il veut d'ailleurs que ce soit une partie de son héritage, là, c'est d'avoir remplacé la loi sur les Indiens par une autre relation, beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus respectueuse, qui va donner plus d'autonomie, plus de moyens, plus de pouvoir aux communautés autochtones. Ça, je suis certain que ça fait partie de son héritage. Si la question constitutionnelle était pour son père, la question centrale, je pense que la question des Autochtones, elle est très importante pour Justin Trudeau. Donc, sur le fond, je pense, je doute pas de sa sincérité. Mais aujourd'hui, le contexte devant les Nations unies, moi, je pense que c'était en partie une opération politique pour montrer le Canada sous son plus beau jour, justement dans l'esprit où on veut rallier le plus grand nombre possible de votes pour finir avec un siège au Conseil de sécurité.
Absolument. Il faut se rappeler aussi que c'est le deuxième discours de M. Trudeau dans cette enceinte. Il était allé l'année dernière et le discours avait été tout aussi surprenant l'année dernière. Rappelez-vous, il avait parlé de son dada, de son thème de campagne, en fait. Il avait parlé de classe moyenne, l'importance d'investir dans les infrastructures, parler de la diversité. On avait eu l'impression qu'il livrait comme ça dans l'enceinte onusienne un discours électoral, celui qu'on avait entendu en boucle l'année précédente en 2015 pendant la campagne. Donc, c'était aussi un discours destiné à consommation intérieure, à consommation canadienne. Et on semble vraiment préconiser ou favoriser ce thème-là, puisqu'aujourd'hui, on revient à la charge avec ce thème qui est très cher aussi à M. Trudeau, des Autochtones. Ce qu'on peut penser aussi peut-être, c'est que dans le contexte de relations difficile ou en tout cas un peu compliqué avec les États-Unis, compte tenu là, du désir là, de renégocier tout cet accord de libre-échange, qu'on veut peut-être se tenir loin de tout sujet susceptible de froisser le géant américain. Et donc, on parle d'autre chose. Dans tout ce discours-là, il y a eu une seule petite allusion aux États-Unis. On peut entendre la citation de M. Trudeau.
No country on the planet that can walk away from the challenge and reality of climate change. And for our part, Canada will continue to fight for the global plan that has a realistic chance of countering it. We have a responsibility to future generations, and we will uphold it. Cela veut dire imposer un tarif sur la pollution causée par le carbone. Lorsque c'est bien fait, c'est le moyen le plus efficace de réduire les émissions tout en continuant à faire croître l'économie.
OK.
Alors, aucun pays peut se soustraire à l'enjeu des changements climatiques. On peut comprendre ou en tout cas déduire qu'on fait référence ici peut-être aux géants américains, mais c'est le plus loin que M. Trudeau est allé dans un quelconque sujet qui pourrait déplaire à l'administration Trump. Donc, on peut penser que c'est une façon de préserver de se protéger, en tout cas, alors qu'on garde toutes nos munitions pour négocier là, sur la question du libre-échange avec les États-Unis. On a déjà bien assez avec ça. On ne veut pas ouvrir d'autres fronts.
Mais c'est une hypothèse intéressante, Hélène Buzetti. Je trouve ça très intéressant, effectivement. C'est vrai que c'est prioritaire de renégocier le libre-échange et si tu y vas sur la question autochtone, ben mettons que tu prends aucun risque de heurter le voisin du Sud. Je rappelle que vous êtes journaliste et correspondante parlementaire pour le journal Le Devoir à Ottawa. Merci, Hélène.
Merci, Bernard. Au revoir.
Dans un instant, on va être en compagnie de Benoît Charrette. On va parler voiture. Il y a une étude qui est sortie à l'effet que ça prend en moyenne 3 mois à un nouveau propriétaire de véhicule pour s'acheter une voiture. Alors, on va discuter char, comme on dit, et on va ouvrir nos lignes pour savoir un peu, vous, que tu sais, quand c'est le temps d'acheter une voiture, comment vous y prenez, vos critères et tout le reste dans un instant.